Bonjour. Il m'est apparu comme une évidence que le sujet de mon propos ce matin devait être Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous connaissez sans doute la maxime « le christianisme, c'est le Christ ». Ça fait longtemps que d'autres ont dit ça avant moi, mais c'est tellement une réalité. Réalité qui tient au fait que nous n'avons pas adhéré à une idéologie, à un système de pensée, ni même à un dogme ou une croyance. Nous sommes en relation avec, j'allais dire, quelqu'un que nous avons rencontré. Il est plus juste de dire quelqu'un qui nous a rencontrés. Chrétien, c'est, vous le savez tous, au départ un sobriquet, et c'est parce que les chrétiens ne parlaient que de lui, enfin les disciples, on disait justement pas encore chrétiens à l'époque, c'est parce que les disciples ne parlaient que de lui qu'on les a affublés par dérision de ce vocable chrétien. Ce qui ne se faisait pas à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est passé dans les mœurs de dire gaulliste. Pour ceux qui se revendiquent de De Gaulle, alors vous pouvez décliner ça à l'infini, avec tous les personnages publics que vous connaissez. À l'époque, on ne procède pas comme ça. C'est une nouveauté à l'époque, de, puisque par exemple, on dit pas aristotélicien, on dit stoïcien, parce que c'est l'endroit où ils se réunissent. Donc, vous voyez, on ne qualifie pas un mouvement de pensée par celui qui l'a initié. Mais c'est tellement la présence de la personne de Jésus est tellement fondamentale dans non seulement le propos, mais l'attitude des premiers disciples qu'ils vont se faire appeler chrétiens. Alors, bon, une fois que j'en étais arrivé là, c'est-à-dire mon sujet, ça va être lui, avec un L ultra majuscule, évidemment, le problème reste entier, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire sur lui qu'ils ne savent pas déjà ? Réponse, évidemment rien, je ne vais rien vous apprendre sur lui. Donc vous allez entendre des choses que vous savez déjà, et c'est ce qu'on appelle les vacances. Mais peut-être que ce ne sera pas un temps complètement perdu si on remet à la surface des choses qui sont, alors certes très, très présentes et très ancrées en nous, mais peut-être parfois un peu enfouies. Donc mon intention ce matin, en toute modestie, c'est de remettre en lumière ou en exergue des choses que nous connaissons par cœur, mais qui restent essentielles à dire de lui. L'expression qui revient sans doute le plus souvent, alors je n'ai pas fait de statistiques, je n'ai pas repris tout le texte de fond en comble, mais c'est en tout cas une des expressions les plus fréquentes dans l'évangile de Matthieu, notamment, pas seulement, mais notamment dans l'évangile de Matthieu, sans doute, peut-être, je m'y risque, l'expression la plus fréquente, si vous le lisez, enfin, d'ailleurs je vais en faire la démonstration très rapidement, c'est pour que s'accomplisse l'annonce du prophète. C'est une expression qui revient tout le temps. Si vous ouvrez l'évangile de Matthieu, donc le début du Nouveau Testament, comme je vous invite à le faire, vous allez voir qu'il ne faut pas attendre longtemps pour que cette expression-là se trouve partout. Ça commence... Premier chapitre, verset 22, tout cela arriva, alors tout cela, c'est là on parle évidemment de la naissance de Jésus, tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète, alors là en l'occurrence c'est Ésaïe, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin, au chapitre 2 et au verset 5, toujours à propos de la naissance, à Bethléem de Judée, lui dirent-ils, ah oui, alors c'est, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui, il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et il s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. Réponse, à Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui a été écrit par le prophète, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Et on continue. Toujours dans le chapitre 2, Vous savez qu'ils partent en Égypte pour éviter la mise à mort de tous les enfants. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète d'Égypte, « J'ai appelé mon fils ». Et là, on est dans une citation de Osée, étant précisé que j'ai oublié de vous le dire, mais la précédente citation sur Bethléem était dans le prophète, on va l'appeler comme ça, par simple, Micha, donc. On pourrait continuer comme ça, mais je vais pas multiplier quant au chapitre 3. Il y a même déjà avant. Ils vinrent habiter dans une ville appelée Nazareth pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen, etc. Et on continue. Après on parle de Jean-Baptiste. C'est lui dont le prophète Ésaïe avait parlé quand il dit une voix dans le désert. Et donc vous voyez que là on est à peine au début du chapitre 3 et j'en suis déjà à 5 ou 6 citations de la même formule pour que s'accomplisse l'annonce du prophète. Et quand on y prête attention, alors ça c'est pour les écrits, et on pourrait dire oui mais l'écrit c'est quelque chose de construit, et l'annonce de la bonne nouvelle c'était pas forcément sur ce même terrain, parce que nous on a, ça serait intéressant de l'étudier, mais on a notre idée de Jésus, on a notre Jésus à nous, comme tout le monde d'ailleurs, on a forcément, la perception qu'on a de quelqu'un, ça n'est pas le quelqu'un. Et moi, j'ai l'habitude de dire, notre Jésus à nous, c'est pour une grande part le Jesus des Américains. Parce que le mouvement évangélique a une histoire c'est pas une critique ce que je vais dire, mais c'est fait de beaucoup de sensibilité, beaucoup de... c'est sur le registre de l'affectif, en tout cas en grande partie. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ces débuts de l'annonce de la bonne nouvelle, on n'est pas prioritairement sur ce registre-là. Les disciples qui ont été choisis pour être les apôtres, c'est-à-dire pour annoncer la bonne nouvelle, vous ne lisez jamais qu'ils sont en train de dire à quelqu'un « ressent l'amour de Dieu ». Enfin, c'est pas sur ce terrain-là qu'on se place. Les mots sont choisis. Alors, j'étaye mon propos par les textes. Si vous prenez dans les Actes, au chapitre, on est essentiellement sur le terrain de la raison, beaucoup plus en tout cas que sur le terrain de l'affectif. Chapitre 9, verset 22, Saul s'affirmait d'autant plus et il confondait les habitants juifs de Damas en prouvant que Jésus était bien le Messie. Voilà, prouver, démontrer. Mais le verbe qui est employé ici est un verbe du vocabulaire juridique. On n'est, encore une fois, pas du tout sur le terrain de l'affectif. Hein. On est sur le terrain de la démonstration et sur le terrain de la raison. Dans Acte 17, au verset 3, Paul alla les trouver et trois sabbats de suite, il leur adressa la parole. À partir des Écritures, il expliquait et démontrait que le Messie devait souffrir, ressusciter des morts. Et le Messie, disait-il, c'est ce Jésus que je vous annonce. Là encore, on est dans le vocabulaire juridique, en tout cas un vocabulaire qui fait appel à la raison, c'est-à-dire à la démonstration. Et je termine mes citations avec le verset 28 du chapitre 18, où là, on ne parle plus parce que on pourrait dire, oui, mais Paul, c'est l'intello de service, donc évidemment, il est plus sur le terrain de la raison que sur le terrain affectif. Il y en a un autre dans le même registre qui va se faire connaître comme ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'apologétique. Hein. Apollos, donc là, on ne parle plus de Paul, on parle d'Apollos, au chapitre 18 et au verset 28. « La force de ses arguments, donc Apollos, avait raison des Juifs en public quand il prouvait, c'est encore le même mot qui est utilisé, quand il démontrait ou prouvait, par les Écritures, que le Messie, c'était Jésus. » Et donc, la manière d'annoncer la bonne nouvelle que vont choisir les apôtres, enfin que vont choisir, c'est le Saint-Esprit qui les conduit, bien sûr, mais que donc Dieu lui-même va choisir pour guider les apôtres dans la manière dont ils vont dire le message et dont ils vont l'écrire, c'est de démontrer que Jésus, c'est l'accomplissement des prophéties. Alors, la notion même de prophétie, ça doit nous interpeller. Il ne faut pas... Alors, je sais bien, on a l'habitude, pour ceux qui sont nés, qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, les prophéties, ça nous paraît tellement normal. Et ça ne l'est tellement pas. Moi, à chaque fois que je suis démarché par quelqu'un qui veut me tirer les cartes ou me lire les lignes de la main, ce qui arrive de plus en plus souvent, bizarrement, je mets en lumière le fait que le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'être humain, à sa création, la seule manière de le créer libre, si vous y réfléchissez deux secondes, c'est de lui avoir donné la capacité de se souvenir du passé, mais d'ignorer son avenir. Imaginez une seconde, il y a quatre possibilités. Soit on ne connaît ni le passé ni l'avenir, soit on connaît les deux, soit on connaît le passé et pas l'avenir, soit on connaît l'avenir et pas le passé. Mettez rapidement les quatre configurations en place, vous verrez que la seule façon de créer un être libre, c'est de lui faire connaître le passé et ignorer l'avenir. Vous imaginez l'horreur que serait le monde. Alors déjà, si on ne se souvenait pas le matin en se levant de tout ce qu'il y a eu avant jusqu'à la veille au soir, je vous dis pas comment on sortirait les pagaies pour vivre tout simplement. Et puis surtout, si c'était l'inverse, c'est-à-dire si, ou même en connaissant le passé, si on connaissait l'avenir, vous imaginez la bonne semaine que passeraient ceux qui savent qu'on va leur annoncer qu'ils ont le cancer de je sais pas quoi à leur prochaine visite chez le médecin, ou même qui vont mourir dans un accident de train, d'avion, de ce que vous voulez, et dans des souffrances pas forcément enviables. Bon bref, je crois qu'il n'y a pas besoin d'y réfléchir longtemps pour le comprendre. Connaître le passé et ignorer l'avenir, c'est un des immenses cadeaux que Dieu nous a fait, évidemment. Donc ça, c'est la règle. Et évidemment, comme c'est lui qui a posé les règles, il est libre par rapport à la règle, bien sûr. Donc il est libre de décider que ponctuellement, il y aura des dérogations, il y aura des exceptions, et que l'avenir sera annoncé. Bon. Et donc, du coup, dans... j'allais dire le monde judéo-chrétien, on a pris l'habitude et on prend ça comme argent comptant de dire y a des gens qui annoncent l'avenir et puis ça se réalise et puis tout va bien. Moi qui, comme vous le savez peut-être, mais je ne suis pas le seul, on est tous dans ce cas-là, discute beaucoup avec des gens qui ne partagent pas du tout les mêmes convictions, ça leur paraît complètement incongru. Et effectivement, vu ce qu'on rencontre comme contrefaçon en matière d'annonce et de réalisation de l'annonce, il faut être plus que méfiant. Alors, j'ouvre une parenthèse pour dire, pour le coup, soyons-le méfiants. Soyons méfiants parce que ces histoires de prophéties qui se réalisent, ça peut être l'arnaque à trois niveaux. Ça peut être l'arnaque parce que, en fait... Soit ça a été écrit, ça prétend avoir été écrit avant, mais ça a été écrit après, ou bien ça a été modifié pour que, genre on rajoute une ligne, une phrase, un truc, parce que c'est vrai que moi si je réédite, si je prends l'initiative de rééditer un bouquin qui a été écrit en 1980, et que je rajoute un paragraphe pour dire qu'il y a deux tours jumelles qui vont se faire exploser, du coup je deviens un prophète, rétrospectivement. Bon. Non mais... Je dis ça, c'est pas une boutade, c'est que ça s'est produit dans l'histoire, c'est-à-dire des gens qui écrivaient après des choses qui étaient censées avoir été écrites avant, et du coup, effectivement, ça donne un certain prestige. Il y a l'autre contrefaçon possible, c'est-à-dire de contrefaire les faits eux-mêmes, pas l'annonce des faits, mais les faits eux-mêmes, pour les faire coller à ce qui a été annoncé. Et puis, il y a la troisième arnaque, entre guillemets, c'est de prétendre qu'il y a une corrélation entre des choses qui n'y sont pas, ou pour le coup, ça n'est pas évident du tout. C'est-à-dire, l'exemple type, c'est pas une moquerie, mais c'est quand même un peu, Nostradamus, moi, quand on me dit le jour où Saturne sera aligné avec Pluton, enfin, pas Pluton, on va choisir une planète, Uranus, et que le vol du corbeau ira du levant au couchant, et quand on me dit bah, ça, tu vois bien que ça annonçait, je ne sais pas moi, la crise économique de 1929, bon, si tu veux, mais ça pourrait être tout autre chose. Bon. Alors voilà, j'ai fait la caricature de ce que sont les critiques possibles pour ce qui se présente en termes de prophétie. Et du coup, ça me permet de dire que il n'y a aucun risque de cette nature par rapport aux prophéties bibliques. D'abord, sur la contrefaçon des textes, là, c'est bordé comme ça pourrait pas l'être plus. C'est-à-dire que, alors non seulement ce sont des textes très 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 anciens, ce qui est déjà une garantie, c'est-à-dire que si vous rajoutez une ligne ou un paragraphe, vous ne pouvez pas le faire sur un texte qui a plusieurs siècles. D'autant plus que ce texte-là, tout le monde le connaît par cœur. C'est-à-dire, rajouter un paragraphe à un obscur bouquin écrit en 1980, ça c'est possible, mais rajouter une phrase à une fable de La Fontaine, ça ne marchera pas. Si vous rééditez les fables de La Fontaine en rajoutant un paragraphe dans Le Corbeau et le Renard, ça se verra tout de suite comme le nez au milieu de la figure. Pourquoi ? Parce que tout le monde le connaît par cœur. Et là, c'est le cas. Là, on parle de textes, les prophéties bibliques, ce sont des textes que tous les Juifs connaissent par cœur. D'une part. D'autre part, ce sont des textes qui sont, alors, reproduits, je parlais de rajouter discrètement un paragraphe, machin, reproduits avec un sens de la précision et du scrupule que nous n'imaginons pas, si, parce qu'on le sait, mais vous savez sans doute, et sinon je vous l'apprends, que quand on recopiait un livre, je parle des Juifs, donc de l'Ancien Testament, quand on recopiait un livre, quand on faisait une copie d'un livre de l'Ancien Testament, on demandait au copiste de donner sa copie, on demandait à un autre de compter les lettres, pas les mots, les lettres. Et si il n'y avait pas exactement le même nombre de lettres dans la copie que dans l'original, poubelle, et on recommence. Donc ça veut dire que on a plus que tous les textes, je le dis en passant parce que ça a son importance, plus que tous les textes de l'Antiquité et des époques, puisque la Bible a été écrite sur, évidemment, plusieurs siècles, même plusieurs millénaires, c'est sans doute ce qui nous est parvenu, c'est sans doute les textes les plus fiables par rapport aux textes originaux à cause de ça, à cause du soin scrupuleux, parce que ce sont, pour les Juifs, avant de l'être pour nous, des textes sacrés. Et donc, on ne plaisante pas avec le sacré, et donc, on fait des choses au millimètre. Et puis, dernier argument, s'il en fallait un dernier, qui est-ce qui faisait les copies ? Qui est-ce qui veillait à ce que le texte soit transmis d'une génération à l'autre avec une exactitude irréprochable ? Ce sont des gens qui, dans leur grande majorité, ont refusé de voir dans Jésus le Messie. Et donc, c'est sûrement pas eux qui étaient contre cette secte où il y avait un type qui prétendait, bah, comme ça, pourquoi pas, être le Fils de Dieu, avec l'hostilité que ça a déclenché. Vous imaginez bien que ce ne sont pas ces gens-là qui ont pu dire, bah oui, on va essayer de faire en sorte que ça colle. Si, au contraire, ils avaient pu, mais ils étaient prisonniers du système que je viens de vous décrire, mais s'ils avaient pu faire en sorte que ça ne colle pas, ils y auraient mis toute leur énergie. D'ailleurs, si on voulait, parce qu'il y a un cas où ils y ont mis beaucoup d'énergie, c'est la traduction du « la Vierge », puisque en hébreu, c'est pas exact, le terme, c'est pas exactement la Vierge, mais c'est la jeune fille. Et comme la jeune fille, elle était jeune fille, ça veut dire qu'elle n'est pas mariée, et pas mariée, ça veut dire qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle, parce que sinon, le peuple hébreu ne serait pas ce qu'il est. Donc, ils ont, après la naissance du Nouveau Testament, enfin, après que le Nouveau Testament ait été écrit, ils ont essayé de dire, oui, mais non, ce n'est pas la jeune fille, c'est la jeune femme. Alors que quand ils ont fait la traduction des Septante, c'est-à-dire quand les savants juifs ont traduit en grec l'Ancien Testament, bah, ils ont pris le mot grec qui voulait dire vierge, et pas le mot grec qui veut dire jeune fille, parce que c'était évident. Bref, parenthèse fermée. Et donc, pour redire la même chose autrement, si vous demandez à un catholique de conserver le Nouveau Testament, peut-être qu'il sera tenté, s'il est mal intentionné, de rajouter un paragraphe en disant « on a vu la Vierge Marie monter au ciel ». Bon. Si vous confiez ça à un protestant, aucun risque, puisque lui, il ne croit pas ça une seconde. Et donc, il ne rajoutera pas ça. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que il n'y a aucun risque pour que des gens qui sont hostiles au message chrétien favorisent ça en créant une coïncidence entre les prophéties et leur réalisation. Bon. Donc ça, ça veut dire, peut-être démonstration un peu longue, mais pour dire, les textes, ils sont intacts. Après, on peut aller à l'autre bout, comme je disais, et dire, oui, mais alors, vous vous êtes arrangé pour que les faits collent. Alors, le meilleur exemple, je dis ça, et ça vous paraît peut-être hors de propos, mais enfin, moi, dans les discussions que j'ai dans le courant de, enfin, au fil du temps avec les uns et les autres, dans mon entourage, c'est des sujets qui sont abordés, donc il faut aussi savoir de quoi on parle. L'exemple type de du soupçon de contrefaçon, c'est de dire, bah, Jésus, il était de Nazareth, il est né à Nazareth, et puis il a vécu à Nazareth, et basta. Et vous lui avez inventé, enfin, les chrétiens lui ont inventé un séjour à Bethléem, enfin, le séjour de ses parents à Bethléem, juste pour que ça colle avec la prophétie, et toi, Bethléem, c'est de toi que va sortir le machin. Et donc, il y a ce soupçon-là, donc, à l'autre bout, d'avoir fait coller les faits aux prophéties pour que, justement, ça s'arrange bien. Or, il y a, là encore, deux arguments qui font que ça ne tient pas. C'est que, un, à chaque fois qu'il y a l'accomplissement d'une prophétie, et ça, c'est quelque chose qui est intéressant à vérifier, j'allais presque dire, d'un point de vue scientifique, en tout cas d'un point de vue académique. Ce n'est pas une phrase qui est balancée comme ça. Je reprends l'exemple. Quand on dit que Jésus est né à Bethléem et pas à Nazareth, alors vous avez là à chaque fois un travail presque de journaliste, plus que d'historien. Mais Luc, par exemple, ne se contente pas de dire « ils sont allés passer leurs vacances à Bethléem et justement, il est né à ce moment-là ». Le chapitre 2 de Luc, ça commence par « En ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta à la ville de Nazareth en Galilée, à la ville de David qui s'appelle Bethléem en Judée. Enfin, de la Galilée à la Judée, parce qu'il était de la famille, de la descendance de David, pour se faire recenser. » Donc là, il y a deux éléments qui jouent. C'est que, un, on donne un luxe de détails qui fait que ce n'est pas contestable, parce que historiquement, c'est parfaitement vérifiable. Parce qu'il n'y a pas que dans l'évangile de Luc qu'on parle de ce recensement. On en parle, vous savez que les Romains étaient très paperassiers. Comme toutes les dictatures bien organisées, ces gens-là avaient des archives, des machins et des trucs, et ce recensement-là, bien sûr qu'on en parle ailleurs, dans les archives romaines, il y est. C'est pas du vent. Et puis d'autre part, ces choses-là ont été écrites, et ça c'est le deuxième argument déterminant, ont été écrites à une époque où il y avait encore des gens qui avaient connu ça. Ils n'étaient pas tous morts. Il y avait des gens qui auraient... Alors, le meilleur exemple qu'on peut donner par rapport à la société contemporaine, c'est que ce qu'on appelle le négationnisme, c'est-à-dire les gens qui disent « les chambres à gaz, ça n'a jamais existé », ils sont confrontés à notre époque, à des gens qui sont encore vivants et qui en sortent, et qui leur disent « vous êtes gentils, mais regardez le tatouage que j'ai sur le bras, il n'est pas venu tout seul, j'y étais moi ». Et bien là, c'est pareil. C'est que écrivez des contre-vérités à cette époque-là, vous vous faites tomber dessus tout de suite par des gens qui disent « Mais attendez, moi, le recensement, je l'ai vécu, j'étais pas grand, mais je me souviens qu'avec mes parents, effectivement, on s'est tapé la route, à pied évidemment, jusqu'à la ville où mon père était né, mon grand-père, mon arrière-grand, enfin, même beaucoup plus loin que ça. » Donc, là encore, pas de risque. Et puis, sur le dernier argument, c'est-à-dire l'absence de corrélation évidente, vous aurez remarqué qu'à chaque fois que l'Écriture dit « pour que s'accomplisse ce qui avait été écrit par le prophète », ce n'est pas des trucs alambiqués qui alignent Uranus sur Jupiter, c'est la Vierge va donner naissance à un enfant. Ça ne peut pas être plus simple ni plus clair. Et puis, ça, il n'y a pas intérêt à se tromper, parce qu'on n'est pas dans l'approximation. Ou bien, toi Bethléem, c'est-à-dire un patelin dont plus personne ne parle à l'époque, sauf à savoir que David était né là-bas, mais vous savez, vous, né Louis XIV ? Non, bah, eux, pareil. Donc, et toi, Bethléem ? Alors, il y avait vaguement une prophétie qui avait dit ça. Bah, voilà, c'est ou bien il naît à Bethléem, ou bien il naît ailleurs. C'est pas des choses qui sont sujettes à interprétation. Alors, ma démonstration a été peut-être un peu longue, mais moi, j'y suis... Enfin, je pense que nous devons être très attachés à ça, même si on est, nous, sortis du contexte du berceau du christianisme qu'est le judaïsme, pour eux, ça avait évidemment énormément d'importance. Parce que ce Messie, on l'attendait. C'était important de savoir si ce Jésus de Nazareth, dont on disait que... dont tout le monde savait qu'il avait été jugé, condamné à mort par les Romains, exécuté, et dont certains disaient qu'il l'avait vu vivant après sa mort, c'est quand même une singularité, le fait d'ajouter qu'il était l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé par les prophètes, et on attachait à ça une importance considérable, c'était pas un enjeu négligeable. Bon, pour nous, évidemment, on est culturellement à une distance vertigineuse de tout ça. Moi, je pense que le peuple de Dieu aujourd'hui, donc les chrétiens, ont besoin aussi de se souvenir que Jésus, le Christ, notre Seigneur, c'est celui qui accomplit tout ce que l'Ancien Testament avait annoncé par la bouche des prophètes et tout ce que Dieu avait annoncé par la bouche des gens qui s'étaient choisis pour le faire. Alors, je pourrais reprendre les unes après les autres, toutes les prophéties qui parlent de Jésus comme... Alors, je me suis tenu à trois choses principales, trois éléments principaux, parce que Jésus va, en plus d'accomplir les prophéties, va les concentrer. Quand je dis le christianisme, c'est le Christ, c'est il est le point de focalisation de prophéties dont il n'était pas du tout évident d'imaginer qu'elles concernaient la même personne. Alors, je m'en tiens à trois. D'abord, justement, puisqu'on parle du Messie, donc, parce que Christ, mot grec, Christos, ça traduit Machia, hébreu, donc Messie, dont tout le monde sait ici que ça veut dire celui qui reçoit l'huile sur la tête, et donc ça veut dire, si on devait trouver un mot français adapté, ce serait le choisi, parce que mettre de l'huile sur la tête, c'est pas juste pour le plaisir de lubrifier, c'est parce qu'on choisit quelqu'un. Alors, je vais pas vous citer les textes, mais on choisit quelqu'un pour être roi, et ça commence très très tôt, hein. On choisit quelqu'un pour... Enfin, c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui dit à Moïse, tu vas verser de l'huile sur la tête d'Aaron. Bon. Donc c'est bien avant les rois, mais on met de l'huile pour montrer que Dieu a opéré un choix, c'est ce que ça veut dire, sur la tête de ceux qui sont choisis pour être rois, ceux qui sont choisis pour être prophètes, et accessoirement ceux qui sont choisis pour être grands prêtres. Ça, c'est les trois cas où on reçoit de l'huile sur la tête. Et donc du coup, Messie, c'est un nom commun, c'est pas un nom propre. Donc Christ, il y a, alors, En hébreu, c'est pas choquant de dire il y a plusieurs et même pas mal de messie, mais si vous traduisez en grec, il y a pas mal de Christ. Ça fait bizarre parce que nous, on n'en connaît qu'un. Mais il était clair dans les prophéties de l'Ancien Testament qu'il y avait eu des oints, enfin, des gens sur lesquels, mais qu'il y en avait un qui, de toute évidence, allait surclasser les autres. Et quand on, dans notre langue à nous, on met une majuscule. Quand on dit, par exemple, la France a connu plusieurs empereurs, mais quand on dit l'empereur, c'est Napoléon. Les Hébreux procèdent un peu de la même manière. Par exemple, ils ont eu une pelletée de prophètes, mais quand ils disent le prophète sans donner de nom, c'est Ésaïe. Ce qui a été dit, annoncé par le prophète, s'il n'y a pas de nom derrière, c'est Ésaïe. C'est comme ça. On dit l'empereur, le général, on sait que c'est De Gaulle, le maréchal, on sait que c'est Pétain, etc. etc. Et donc, le premier point de focalisation, c'est que, mais là je ne vais pas vous faire l'historique, alors j'aurais bien voulu parce que ça pourrait être intéressant, mais je suis obligé de survoler ça, si vous voulez on y reviendra dans un autre cadre, un autre jour, on est appelé à se revoir. Hein. Vous savez que Dieu, par le prophète, en l'occurrence Nathan, avait dit à David, ta descendance, ambiguïté, ta descendance aura une royauté qui n'aura pas de fin. Alors, peut-être quand même, c'est dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 17. Non, c'est pas ça. 2 Samuel, chapitre 7, verset 12. Voilà, quand tes jours sont accomplis, que tu seras, vas-y, déroule un peu, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, j'affermirai pour toujours son trône et son royaume, et ça continue comme ça. Et donc, inévitablement, c'est lui qui va construire la maison. Tout le monde dit, oui, effectivement, ça s'est accompli, puisque son fils Salomon a construit le temple, basta. Sauf que, il faut être très prudent avec ça, hein, parce que, on a déjà eu des débats à ce sujet, il faut être très prudent avec ça, mais souvent les prophéties sont à double détente. C'est-à-dire, effectivement, c'est ta descendance qui bâtira une maison pour mon nom. Ça s'est accompli par la construction, par Salomon, du temple, mais sa royauté n'aura pas de fin, la royauté de Salomon. Et effectivement, celui-là est qualifié de Messie. Et on va l'attendre, d'ailleurs au point que quand Jésus va commencer son périple sur la terre, la moindre Samaritaine perdue au fond de sa campagne et au bord de son puits va lui dire « J'ai entendu dire qu'il y avait un Messie, est-ce que par hasard ce ne serait pas toi ?» Parce que pourquoi est-ce qu'on attend le Messie ? On attend encore le Messie, parce qu'on a bien vu que Salomon, son règne avait pris fin, et puis on a bien vu surtout que ça se dégradait après, qu'on n'allait pas vers le mieux mais vers le pire, et que la royauté en Israël était de pire en pire du point de vue de ce que Dieu attendait, et que on a fini par arriver à des gens comme Akaz qui va sacrifier ses enfants, qui va en faire des sacrifices humains pour un dieu étranger, Moloch, et à qui Dieu va envoyer un prophète pour lui dire il va falloir que les choses changent. Et vous savez que le prophète va dire à Akaz, demande-moi un signe, demande à Dieu un signe pour qu'il soit bien clair que mes paroles ne sont pas les miennes mais celles de Dieu. Et Akaz va dire, moi je ne demande pas de signe. Et le prophète va répondre, tu ne demandes pas de signe, mais moi, enfin, tu ne demandes, tu veux pas demander à Dieu un signe, mais moi je vais t'en donner un. Et c'est là que tombe la phrase, la Vierge va donner naissance à un fils. Et on attend toujours, à cette époque-là, celui qui sera le descendant de David, avec quelques bizarreries, c'est-à-dire, bah, par exemple, on en a parlé, la naissance à Bethléem, et toi, Bethléem, t'es pas le plus petit des patelins de Juda, et même dans l'hébreu, c'est même pas ça, c'est, tu n'es même pas digne de figurer parmi les villes de Juda, et pourtant, bon, c'est une bizarrerie, pourquoi ? Parce que si c'est un... Parce qu'à l'époque, on ne sait pas comment ça va tourner, la royauté, évidemment, à l'époque où c'est annoncé. Donc ça veut dire qu'il va être un descendant de David, ça ne fait pas de doute, puisque Dieu a dit à David, ta descendance, mais en même temps, il va naître à Bethléem, et pas à Jérusalem. Donc il ne sera pas roi à la naissance. Il sera pas, ça ne sera pas le fils du roi, puisqu'il va naître dans un patelin qui est certes le patelin d'origine de David, mais quand il était berger, pas quand il était roi. Quand il était roi, les rois s'installent à Jérusalem, et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà à l'époque, mais c'est pour ça que c'est très difficile d'interpréter les prophéties, parce qu'à l'époque, il aurait fallu être assez malin pour dire, bon alors, ça va être un descendant de David, mais il sera pas, son père ne sera pas roi, puisque sinon il serait né à Jérusalem et pas à Bethléem. Enfin, tout ça, c'est de la construction intellectuelle. Mais il y a ces mystères-là qui sont donnés. Et puis, à ce mystère-là s'en ajoute un autre. C'est les termes du psaume 110. Alors, le psaume 110, quand même, on va y jeter un coup d'œil, vite fait. Si vous avez 2 minutes avant de partir. Le psaume 110, il est quand même très surprenant. Alors, je vous fais l'impasse sur les précisions qui avaient été données par rapport à cette prophétie faite à David. C'est que d'autres prophéties avaient dit, mais la dynastie davidique, c'est-à-dire les descendants de David, ça sera un arbre coupé. Enfin, il y a l'histoire, il y a l'expression la cabane écroulée en hébreu, et puis l'arbre coupé. Et la prophétie qui avait dit ça sera un arbre coupé, c'est-à-dire que la dynastie, elle va s'arrêter. C'est comme ça qu'il fallait le comprendre. Alors vous me direz, c'est facile de comprendre après. C'était pas facile de comprendre avant. La prophétie qui avait dit ça sera un arbre coupé, c'est-à-dire que la descendance dynastique va s'arrêter un jour, et il y aura un rejeton, c'est-à-dire de l'arbre coupé naîtra donc quelque chose de tout petit, un truc qui sera pas, enfin un truc, en l'occurrence quelqu'un qui ne sera pas gigantesque à la naissance, mais les prophéties avaient annoncé que la promesse faite à David, elle s'accomplirait d'abord par le fait que sa descendance, sa dynastie serait interrompue, et d'autre part par le fait que un rejeton, donc quelqu'un de très modeste au départ, allait accomplir cette annonce. Et le psaume 110 en avait remis une couche en disant, alors vous connaissez le psaume 110 bien sûr, mais... la curiosité du psaume 110, et c'est ce qui plongeait les théologiens dans un abîme de perplexité, verset 2, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, donc il est roi. Verset 4, l'Éternel l'a juré, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Sacrificateur, là, en l'occurrence, c'est prêtre. Enfin, sacrificateur. Donc, il est... et puis, il y en a encore un chouïa. Ah oui. Et puis, verset 6. Il exerce la justice parmi les nations. Enfin, bref. On en apprend de plus en plus sur ce fameux descendant de David, dont on peut comprendre, si, mais encore une fois, c'est très facile après, c'était beaucoup moins facile sur le moment, dont on découvre qu'il est déjà annoncé qu'il va briser un tabou, c'est-à-dire le cumul des fonctions. Nous, on appelle ça la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, les Hébreux connaissent déjà ça. On est roi, c'est-à-dire la séparation du temporel et du spirituel, c'est-à-dire on est roi ou on est prêtre, et prêtre en chef, souverain sacrificateur, mais on n'est surtout pas les deux, sinon on est dictateur. surtout pas de concentration des pouvoirs entre les mêmes mains. Donc le pouvoir religieux d'un côté, le pouvoir temporel de l'autre, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Et il y a une interdiction formelle dans la loi d'être à la fois roi et prêtre. Et là, le psaume 110 brise un tabou en disant, mais celui-là, ça sera le roi, en plus il sera prêtre, et en plus il sera juge. Donc on sait déjà tout ça de lui. Et donc, quand Jésus va revendiquer ça, et effectivement, enfin, moi je pense souvent à Paul, et vous savez qu'on accuse Paul de ne, c'est une accusation fondée pour le coup, on accuse Paul l'apôtre de ne jamais, jamais, jamais parler du Jésus humain. Il n'y a pas une ligne dans tous les écrits de Paul qui parle de Jésus dans le cadre de son passage sur la terre. Pour lui, c'est un théologien, mais il n'y a pas une allusion au Jésus, on va dire, terrestre. Alors qu'ailleurs, on trouve évidemment des récits qui parlent de la vie de Jésus. Jamais chez Paul. Parce que Paul, lui, il a intégré tout ça. Et il dit, si on connaissait à la manière humaine, maintenant on connaît plus. Enfin, il a bien intégré le fait que le Jésus humain avait accompli toutes les prophéties, mais que après sa mort et sa résurrection, c'était alors à la fois donc la concentration des trois personnages, c'est-à-dire ce fameux Messie avec un M majuscule, c'est-à-dire le roi absolu qui est en plus le prêtre absolu et le juge absolu. C'est pour ça que Paul se fait une très très haute idée de Jésus mort et ressuscité. Idée qui est partagée par chacun ici, parce que c'est géant. C'est géant d'autant plus que ça n'est pas que ça. Alors, on peut pas dire Jésus, le Christ, et puis ajouter une multiplicité de trucs, mais il y a encore deux domaines où Jésus concentre l'accomplissement des prophéties, alors qu'encore une fois, il n'était pas évident que les prophéties parlaient toutes du même personnage. Le deuxième, c'est compliqué à traduire, mais dans les traductions classiques, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, puisque dans le chapitre 7 de Daniel, c'est avec Daniel a une vision, et il voit, et heureusement, parce que sinon ça aurait été compliqué, il a l'explication qui va avec la vision, donc quatre bêtes, quatre animaux, qui sont quatre royaumes, et puis à la sortie, le pouvoir absolu qui est donné à celui qu'on appelle le Fils d'homme ou Fils de l'homme, mais effectivement, les commentateurs qui le disent ont raison, ça peut vouloir tout simplement dire être humain. Fils d'homme, on est tous. Fils d'homme, on est tous. Fils de l'homme, être humain. Mais là, en l'occurrence, dans le chapitre 7 de Daniel, c'est l'être humain avec un grand E et un grand H. C'est l'être humain absolu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'être humain absolu ? Alors, de la même manière que, puisque au tout début, j'ai cité un texte qui disait « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Et le texte du Nouveau Testament, donc le texte de Matthieu, dit, voyez, quand Jésus est revenu d'Égypte avec ses parents, après avoir fui la persécution d'Hérode, c'était pour que s'accomplisse la parole du prophète d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Or, quand vous prenez cette prophétie-là, il est très clair, très très clair, que d'Égypte, j'ai appelé mon fils, le fils en l'occurrence, qui est visé, c'est Israël. Parce que, je peux bien vous faire la démonstration, mais, attendez. Alors, c'est le texte de, je crois que c'est Michée, là, en l'occurrence, chapitre 5, non, c'est pas ça, c'est Osée, ça. Osée, alors plus c'est petit, plus c'est difficile à trouver, forcément. Ah oui, c'est, hein. Voilà, Osée, voilà, Quand vous prenez le texte original, c'est « Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Donc là, on avait tout lieu de comprendre que le fils en question, c'est le peuple d'Israël. Sauf que, comme je disais, c'est une prophétie à double détente, c'est-à-dire que c'est vrai pour Israël, c'est vrai aussi pour Jésus. Et là, donc, le Fils de l'homme, donc quand on prend le livre de Daniel au chapitre 7, là aussi, c'est clair que le Fils de l'homme, c'est le peuple de Dieu. Quant à la royauté, puisque la prophétie se termine comme ça, quant à la royauté, donc on dit qui sont les quatre animaux, et verset 27, quant à la royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous les cieux, elles ont été données au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, toutes les souverainetés le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le récit. Donc là, on dit, c'est le peuple de Dieu. Sauf que, et ça, facile à dire après, pas évident de le comprendre avant, le peuple de Dieu, il est constitué en un corps et ce corps a une tête. Et donc, cet être humain au sens absolu, qui est effectivement un être humain unique au sens d'un seul corps, il a une tête. Et Jésus va intégrer ça, puisque vous savez que dans Luc, vous connaissez tous les textes où Jésus se revendique comme étant le fils de l'homme. Il a du mal à dire qu'il est le Messie. Il laisse les autres le dire à sa place. Mais en revanche, quand il s'agit du fils de l'homme, il dit, « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Et il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne me répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme siégera à la droite de Dieu. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et là, il intègre, quand il se nomme être humain, c'est-à-dire fils de l'homme, il intègre, il se voit comme la tête d'un corps qu'il associe à lui. C'est intéressant du point de vue de la perspective de l'Église, c'est-à-dire quand Jésus dit « le Fils de l'homme, donc tête et corps, a sur la terre le pouvoir de pardonner », ça veut dire que c'est en corrélation avec le fait qu'il va donner à son Église, en l'occurrence à ses apôtres, le pouvoir de pardonner. Il y a un passage, vous le savez, où il dit je vous donne les clés. Je te donne les clés. Ce que tu fermeras sera fermé. Ce que tu ouvriras sera ouvert. Même chose pour le pouvoir de guérison. Alors il met toujours en perspective cet aspect-là des choses. Il se revendique comme étant ce fils de l'homme de la vision de Daniel, c'est-à-dire celui qui surclasse tous les royaumes. Mais là, en s'associant, parce qu'il est, lui, tout seul, le roi, fils de David, le roi absolu que Dieu a annoncé par les prophètes, mais il est avec nous, l'Église, le fils de l'homme qui est plus fort que tous les royaumes du monde et qui, ultimement, installe un royaume définitif après que tous les royaumes concurrents auront été anéantis. Et puis, la dernière chose, mais je me suis promis de m'arrêter à midi, donc il est midi moins deux, et c'est dommage, parce que, comment ne pas citer dans le... Mais je reviens un tout petit peu en arrière sur le Messie, le passage essentiel sur ce terrain-là, c'est Jésus qui demande à ses disciples, pour vous, je suis qui? Alors, et il s'abrite, parce que, réflexe très humain, on ouvre le parapluie. Il y en a qui disent que, c'est pas la question, c'est vous dites quoi à propos de moi? Et c'est intéressant parce que dans notre société contemporaine, quand vous posez, alors on n'est pas obligé de la poser comme ça, mais quand vous demandez à quelqu'un, et toi t'en penses quoi de Jésus? La réponse, c'est du même ordre. Il y en a qui disent que, alors selon les écoles de pensée, il y en a qui pensent que c'est un prophète, il y en a qui pensent que... Exactement, la réponse est des disciples. Jésus n'a pas eu le temps de dire, mais ce n'est pas la question que je vous pose, je ne vous demande pas ce que les gens autour pensent de moi, je vous demande, vous, ce que vous en pensez. Mais vous savez que Pierre, à ce moment-là, prend la parole et dit, tu es le Christ. Et il ajoute le Fils de Dieu, parce que... Alors ça fait partie des choses que je n'ai pas eu le temps de dire, mais il y a aussi des prophéties qui lient non seulement Jésus à cette filiation de David, mais aussi la filiation de Dieu, et notamment, alors pardon de revenir en arrière, mais dans Matthieu au verset 16, d'ailleurs j'ai parlé du psaume 110, Et vous savez comment Jésus va utiliser le psaume 110, entre guillemets, contre les pharisiens. Psaume 110 qui commence par « Le Seigneur dit à mon Seigneur ». Et donc, question judicieuse de Jésus à ses interlocuteurs, le Messie, au fait, c'est le fils de qui ? Alors évidemment, là, la réponse académique qui tombe sans l'ombre d'une hésitation, le fils de David. Oui, mais alors si c'est seulement le fils de David, parce que c'est ça que ça veut dire, si c'est seulement le fils de David, pourquoi est-ce que David l'appelle mon Seigneur, alors que le mot Seigneur, qui est un terme de respect dans le judaïsme, mais aussi, ça pourrait être vrai aussi dans notre langue, dans le judaïsme, il est utilisé des enfants vers les parents. C'est-à-dire, j'ai toutes les raisons de dire... Si je suis juif, mon Seigneur à mon père, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, surtout si c'est des rois. Mais par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire, jamais, jamais dans le judaïsme, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père ne m'appellerait moi Seigneur. Et donc, la question de Jésus, c'est alors pourquoi il le fait ? Pourquoi David, qui est donc l'arrière-arrière-arrière, on ne sait pas combien, mais le lointain ancêtre du Messie, pourquoi est-ce qu'il l'appelle Seigneur ? Donc la réponse que jamais ses interlocuteurs n'accepteront de donner, mais qui est évidente, c'est que c'est plus que le fils de David, bien sûr. C'est le fils de Dieu. Et ça, c'est Pierre qui va le confesser quand Jésus va lui dire « Et vous, vous pensez quoi ?» Il va dire « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Et vous savez que Jésus va lui dire « Toi, tu as de la chance. » Parce que ce n'est pas un être humain qui a pu te révéler ça. C'est mon Père. Et donc le dernier élément, comme ça, je suis en retard, c'est parfait, pas de souci. Vous ne serez pas là quand je me ferai engueuler, donc ça me concerne. Le dernier élément, mais ça aussi c'est des choses qu'on connaît par cœur, c'est que Jésus c'est aussi le serviteur sacrifice humain. Ce qu'on a commémoré là, Ésaïe 53. Ésaïe 53 qui dit « Mon serviteur, ça sera comme un agneau qu'on emmène à la boucherie, il ne va pas protester, il ne va pas se rebeller, il va docilement et sans ouvrir la bouche, il va se laisser traiter comme un sacrifice humain, parce que c'est comme ça et comme ça seulement que pourra intervenir le salut du peuple de Dieu. » Et donc ça, personne, alors là, il y avait peut-être des petits malins, il y en avait même certainement, et même plus que des petits malins, des gros malins dans le peuple d'Israël, mais parmi les docteurs, les théologiens, les savants, et ils étaient nombreux, personne n'avait percuté sur le fait que le fameux fils de David, le roi absolu, le fils de l'homme de Daniel, l'être humain qui concentrerait, qui serait la tête d'un corps qui rassemblerait tout le peuple de Dieu, et le serviteur qui, dans un pays où c'est une prohibition absolue, absolue, va devenir, à la demande de Dieu lui-même, un sacrifice humain, parce que... S'il y avait un peuple où ça ne se pratiquait pas, parce que je vous ai dit tout à l'heure, Akkas, par exemple, il va il va faire de son enfant, de son propre enfant, un sacrifice humain pour un Dieu étranger. Parce que, au niveau des sacrifices humains, dans l'entourage d'Israël, ça y allait, c'était la joie. Israël, nada, jamais, jamais. Et même, il fallait, bon, vous savez, ne pas absorber le sang, parce que le sang, c'est la vie, enfin bon, pas de ce genre de truc en Israël. Et pourtant, Dieu annonce par Ésaïe que il y aura une exception suprême, c'est-à-dire qu'il y aura un être humain à qui Dieu demandera de devenir un sacrifice comme les animaux, c'est-à-dire s'abaisser au rang d'un animal pour être sacrifié, et sans moufter en plus. Et donc, vous savez que je terminerai par là, dans Jean au chapitre 19, Jésus qui va accomplir ça de manière absolue, les Juifs lui répliquèrent, nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. Lorsque Pilate entendit ce propos, il fut de plus en plus effrayé, il regagna sa résidence et dit à Jésus, d'où es-tu, toi ? Pas compliqué comme question. Donc, ce n'était pas compliqué comme réponse non plus. Et Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, c'est à moi que tu refuses de parler, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te faire crucifier ? Mais Jésus lui répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et c'est bien pour ça que celui qui m'a livré porte un plus grand péché. D'abord, le silence. Parce que ça, c'est l'ordre de Dieu. Tu vas aller au sacrifice en silence. Et un sacrifice dont on sait aussi, par Ésaïe 53, qu'il sera volontaire. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir de descendre de la croix. J'ai le pouvoir de choisir, j'y vais ou j'y vais pas. Pas ma volonté. Si c'était possible, ça serait... Mais puisque tu me l'as demandé, j'y vais et j'y vais sans moufter. Enfin, j'ai été long pour dire des choses qu'encore une fois, tout le monde ici connaît par cœur et j'en suis bien conscient, donc pardon d'avoir pris de votre temps. Mais ça me paraît important qu'on sache, d'une part, la grandeur du Seigneur qu'on adore dans ces moments, et si possible toute la semaine, et moi je suis loin du compte. Mais celui à qui on a adhéré au sens le plus fort du terme, c'est tout ça à la fois. Et c'est le cadeau de Dieu. Le mot cadeau est beaucoup trop faible. C'est en lui que se concentre tout le projet de Dieu depuis la fondation du monde. Alors, encore une fois, ce que j'ai fait avec 3 exemples, je pourrais le faire avec 30 et sans doute avec 300 prophéties qui se focalisent dans leur réalisation sur la personne de Jésus. Mais ce qui est important de savoir, c'est que, mais on le sait, encore une fois, pardon de n'avoir fait que le rappeler ce matin, il est, lui, comme l'écrira Paul, au centre de tout. Et je prie, en ce qui me concerne, pour que Dieu me donne conscience qu'il m'a donné la vie, comme le dit la Bible, et que cette vie est en son Fils.